Bonjour, je suis Sabrina Payet. La justice, un droit pour tous. Au sein de mon cabinet à Toulouse, j'exerce principalement en droit de la famille et en droit commercial. Je vous propose de vous parler aujourd'hui d'une procédure de divorce. Le divorce est une procédure qui permet de mettre un terme au mariage. Elle est régie par les articles 229 et suivants du Code civil. Sous réserve de questions relatives à la capacité juridique des époux, c'est-à-dire à condition qu'ils ne soient pas placés sous un régime de protection tel que la tutelle ou la curatelle, et sous réserve également de leur nationalité, les époux disposent de différentes façons pour divorcer. Il est possible de divorcer en présence d'un juge ou en dehors de la présence d'un juge. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le type de procédure de divorce, il est obligatoire que chaque partie ait son propre avocat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure de divorce conventionnelle qui se déroule en dehors de la présence d'un juge. Comme son nom l'indique, le divorce conventionnel n'est pas judiciaire et résulte d'une convention, d'un contrat. C'est le divorce par consentement mutuel et par acte d'avocat. Il suppose que dès le départ, ou au terme d'une négociation menée par le biais des avocats, que les époux soient d'accord aussi bien sur le principe du divorce que sur l'ensemble de ses conséquences. S'agissant de ses conséquences, elles sont principalement au nombre de 4. Il y a tout d'abord, et le point essentiel, le sort des enfants si les époux en ont en commun. Il convient en effet que les époux se mettent d'accord sur le mode de garde des enfants, le principe et le montant d'une pension alimentaire pour leur éducation et leur entretien. Il convient de préciser que si les enfants sont capables de discernement, donc en fonction de leur âge et en principe aux alentours de 11-12 ans, ils ont la possibilité de demander à être entendus par un juge. Si tel est le cas, dès lors qu'ils sont informés de la procédure de divorce et qu'ils ont indiqué qu'ils souhaitaient être entendus par un juge, les parents sont obligés de renoncer à la procédure conventionnelle de divorce et de passer par une procédure judiciaire. La deuxième question à se poser est de savoir si l'épouse continuera ou non à porter son nom d'épouse ou si elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille. Troisième point à évoquer s'agissant des conséquences du divorce, la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire le sort des biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage par les époux. Des réflexions différentes sont à mener selon que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ou s'ils ont adopté le régime de la séparation de biens à l'occasion de la signature d'un contrat de mariage devant notaire avant leur mariage. À l'occasion de la liquidation du régime matrimonial, il sera nécessaire de reconstituer l'historique patrimonial du couple en tenant compte de qui a financé quel bien et avec quel compte bancaire, le cas échéant. Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le divorce ne pourra être signé qu'une fois que le régime matrimonial aura été liquidé, c'est-à-dire s'agissant des biens immeubles, que leur sort ait été scellé, soit parce que les époux auront décidé de vendre le bien immeuble à un tiers, soit parce qu'ils auront décidé de se céder entre eux le bien immobilier, moyennant un rachat par l'un de ses droits à l'autre grâce au paiement de ce que l'on appelle une soulte. Quatrième élément de réflexion, une éventuelle prestation compensatoire. S'il existe au moment du divorce une disparité entre les situations de chacun des époux et que cette disparité est la conséquence de choix faits en commun par les époux pendant le mariage, celui des époux qui se trouve au moment du divorce dans une situation plus délicate peut demander à l'autre de l'indemniser afin de compenser la disparité existante. Cette indemnisation constitue la prestation compensatoire et peut être versée sous forme de capital, de rente mensuelle pendant une période maximum de 8 ans ou, exceptionnellement et dans des conditions très particulières, sous forme de rente viagère. Quand il s'agit de verser la prestation compensatoire sous forme de capital, Il peut s'agir aussi bien du versement d'une somme d'argent ou du fait que celui qui est débiteur de la prestation compensatoire abandonne par exemple une partie de ses droits dans le patrimoine immobilier commun à l'autre époux. Une fois que les deux parties ont trouvé un accord sur les différentes conséquences du divorce, les avocats rédigent alors une convention de divorce afin de mettre ces différents points d'accord, noir sur blanc, selon un formalisme très strict. Après un délai légal de réflexion de 15 jours, et alors que les parties auront validé la convention de divorce, celle-ci, obligatoirement présente et également obligatoirement assistée chacune par leur propre avocat, signe la convention de divorce. Ce document, cette convention signée, est l'acte de divorce qui est ensuite adressé au notaire du choix des parties pour être déposé au rang de ces minutes. Par la suite, les avocats se chargent de faire transcrire le divorce sur les registres d'état civil afin que le divorce soit publié et opposable à tous. C'est grâce à l'acte de naissance et à l'acte de mariage portant la mention du divorce que chaque époux, et notamment les ex-épouses, pourront, éventuellement faire modifier leur papier d'identité. Une procédure conventionnelle peut finalement se dérouler très rapidement, de sorte que les époux peuvent rapidement être divorcés. Le divorce peut ainsi être signé en un mois ou deux. Tout dépend finalement de la volonté des époux et de leur capacité à s'entendre plus ou moins rapidement sur les conséquences du divorce. Ainsi, plus la négociation sera âpre et longue, plus il sera long de parvenir à la signature de la convention. Le coût d'une procédure de divorce est bien évidemment variable. Il comprend trois éléments essentiels. Les honoraires de l'avocat, qui sont fonction, selon nos règles professionnelles, de la durée du dossier, de sa difficulté, de la situation des parties. D'autre part, des droits d'enregistrement auprès des services fiscaux. Et enfin, du coût de l'intervention du notaire pour le dépôt au rang de ces minutes de la convention signée. Je précise que, pour ce qui est des honoraires de l'avocat, ils sont évalués dès l'ouverture du dossier et donnent lieu à la signature d'une lettre de mission qui fixe les conditions d'intervention de l'avocat, tant en termes de durée que de détails de la mission, mais également de son coût. Si les époux ne sont pas d'accord sur le principe du divorce ou ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'ensemble de ses conséquences, il convient alors d'envisager un autre type de procédure, une procédure devant un juge, et il s'agira donc du divorce judiciaire. Je vous dis au revoir. Bien sûr, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter à mon cabinet. Je vous rappelle mon nom, Sabrina Payet. Mon cabinet se situe 14 rue Perras à Toulouse, où vous pouvez prendre rendez-vous en contactant ma secrétaire Mélanie au 05 61 53 36 21.